Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle, pour les fils d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous ? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa famille, et ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi dit, « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. » Et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment devant l'Éternel qu'avait fait entre eux David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aïa, qu'elle avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils de Michal, fille de Saül, qu'elle avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui exposèrent leur corps sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fille d'Aïa, prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. On rapporta à David ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aïa, concubine de Saül. Alors David alla prendre les os de Saül et les os de son fils Jonathan chez les habitants de Yabek en Galaad qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan où les Philistins les avaient pendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan son fils et l'on recueillit aussi les os de ceux dont les corps avaient été exposés. On ensevelit les os de Saül et de son fils Jonathan dans le pays de Benjamin, à Tesla, à Tsela, dans la tombe de Kish, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Et puis, vous comprendrez pourquoi, parce qu'il y a des échos en fait, mais alors c'est assez subtil, entre ce texte et le chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Alors, je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis les passages qui font le plus écho. Donc, texte assez violent aussi, puisqu'il s'agit du procès et de la mort de Jésus. Dès lors, Pilate cherchait à relâcher Jésus. Mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena donc Jésus dehors. Il s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi ». Mais ils s'écrièrent, « À mort, à mort, crucifie-le ». Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus. Et puis un peu plus loin, à partir du verset 31. C'était le jour de la préparation et pour que les corps ne demeurent pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un soldat lui transperça le côté avec une lance, aussi il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a témoigné et son témoignage est vrai. Lui, il sait qu'il dit vrai pour que vous aussi, vous croyiez. Cela est arrivé afin que s'accomplit l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regardèrent vers celui qu'ils ont transversé. Et enfin, dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, deux versets que vous connaissez très bien et qui semblent aller complètement à l'encontre de ce que je viens de lire, particulièrement dans le livre de Samuel. Jésus dit à un autre, « Suis-moi !» Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Je voudrais commencer en disant que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des petits personnages qui semblent avoir peu de consistance. Et celle-là, on la trouve juste là, quelques versets au milieu de cette énorme Bible. Elle ne parle même pas, cette Ritzpa. Bon, ça peut faire écho aussi avec des petits personnages dans nos existences ou dans nos sociétés dont on n'entend pas la voix. Eh bien, ce matin, j'ai choisi de faire parler Ritzpa, de partager avec vous ce qu'elle a vécu. Alors, il est probable que je n'aurais jamais fait attention à elle, même si je fais très attention quand je lis la Bible. Si je n'avais pas visité, il y a de ça quand même un certain temps, puis je la visite encore assez régulièrement, une petite chapelle au milieu de la montagne de Savoie, vous savez, sur ces chemins du baroque, où il y a de nombreuses statues, des représentations, tout ça est très coloré. C'est dû à la contre-réforme, mais finalement la contre-réforme a des, à mon avis, quelques vertus, parce que finalement, cette sorte de catéchisme par l'image est tout à fait parlante. La preuve, c'est que ça m'a interpellée, alors que je suis quand même assez protestante, donc, mais j'aime bien, finalement. Et puis, ça montre aussi la piété de ces personnes qui ont été capables d'aller construire des chapelles étonnantes en plein milieu de nulle part. Donc, je suis toujours émue lorsque j'y vais. Eh bien, au cœur de cette chapelle, il y a trois femmes. Alors il y a évidemment en plein milieu une Pietà, c'est-à-dire Marie avec, c'est une statue d'ailleurs, Marie avec le Christ qui vient de descendre de la croix sur ses genoux, donc on voit bien toute la douleur de cette mère. Il y a sur la droite une représentation d'Agar, vous savez Agar c'est cette femme qui a porté le premier enfant d'Abraham, Ismaël, et lorsque Sarah, l'épouse d'Abraham, réussit enfin à avoir un enfant, Isaac, elle est jalouse, donc elle veut que Abraham chasse Agar, et Abraham chasse Agar. Elle se retrouve seule dans le désert, et l'eau vient de sa gourde vient d'être terminée. Elle est là, avec son fils qu'elle n'ose même pas regarder, parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Elle est là, elle a peur, elle sait qu'il va mourir de soif, elle ne veut pas l'affronter. Bon, Dieu va intervenir, alors... Donc pour Marie et pour Agar, en quelque chose, on va dire qu'il y a une fin plus heureuse. Mais Ritzpa, elle, après cet épisode-là, on ne sait pas ce qui se passe pour elle. Et en tout cas, on ne nous dit rien après la mort de ses fils, plus que ce que nous avons là. Est-ce qu'elle ne connaît pas la fin ? Donc j'ai choisi de m'arrêter aussi sur cet instant, ce... Pas encore. Eh bien oui, Marie, Agar, Ritzpa sont des mères endeuillées, sont des mères meurtries. Elles peuvent faire écho aussi à tous nos deuils, à toutes nos meurtrissures. Eh bien, c'est pour ça aussi, on dit souvent que l'Ancien Testament est extrêmement violent. Alors oui, je ne vais pas vous dire que ce texte n'est pas d'une violence extrême, mais finalement, ces meurtrissures, cette violence existe encore. L'Ancien Testament nous parle de la vie, de l'existence telle qu'elle est. Encore aujourd'hui, cela peut faire écho avec les violences que nous pouvons rencontrer autour de nous, dans notre monde, de loin ou de près. Et puis, le deuil des parents, c'est quelque chose qui existe. Et comment accompagner ces personnes qui sont dans ce deuil extrême ? Tout cela, eh bien, nous pouvons l'entendre, ces questions, elles nous rejoignent aujourd'hui encore. Alors c'est vrai que c'est quand même dans un contexte et dans une culture qui nous est profondément étrangère. Surtout nous les protestants, la semaine dernière, je ne sais pas, il y a quelques personnes peut-être qui sont allées se recueillir sur les tombes, mais en général, le 11 novembre n'est pas la fête nationale protestante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis même le 31 octobre, c'est la fête de la Réformation. Donc on fête Luther et pas trop les morts quand même. Bon, donc on a tous en tête laisser les morts, enterrer les morts, à tel point que toute une frange du protestantisme, d'ailleurs au départ, et puis c'est revenu avec Karl Barth au XXe siècle, mais finalement on n'accompagnait pas les endeuillés. À mon avis, c'est une grosse erreur. Au départ, Calvin disait. Finalement, on va aller voir la famille, mais après, ils se débrouillent. Et Barthes disait, les pasteurs, surtout, faites pas d'enterrement parce qu'on est tourné vers la vie. Oui, on est tourné vers la vie. Mais pour se tourner vers la vie, il faut pas gommer, effacer la mort parce qu'elle est là, elle est présente. Et la mort fait partie de la vie. Alors, ces textes, finalement, nous rejoignent encore aujourd'hui. Donc, cette femme m'a quand même interpellée. Parce que c'est vrai qu'elle veille, alors vous savez peut-être pas, mais entre la moisson et le moment où la pluie revient, la moisson de l'orge, on pense que c'est de mai à octobre, novembre. Donc elle veille quand même très très longtemps le corps de ses fils. Et non seulement de ses fils, mais des 5 fils de la fille de Saül. Donc on voit là qu'il y a cette femme assez... Enfin, son travail est assez exceptionnel. Elle prend le deuil, puisqu'on nous dit qu'elle s'assoit sur un sac. Et puis, elle va chasser jour et nuit tout ce qui peut venir corrompre le corps de ces jeunes hommes qui ont été sacrifiés. Parce qu'il s'agit bien, là, en quelque sorte, de sacrifices qui ont été sacrifiés sans qu'on lui demande à elle quoi que ce soit. Donc... Cette femme, elle est prise dans la tourmente d'une violence quand même assez masculine. Ça se passe entre les Gabaonites et David. Et puis finalement, c'est David qui, sans aucun remords, livre les 7 jeunes garçons aux Gabaonites. Bon, il avait fait un serment à Jonathan, le fils du roi Saül, avec qui il était profondément ami, de protéger et de conserver la vie de son fils. Bon, son fils était boiteux, ce qui dans la vie n'est pas terrible quand même, mais enfin bon. En tout cas, là, c'est la lignée de Saül qui va s'éteindre avec ses 7 fils. Quant au fils de Jonathan, on ne sait pas trop ce qu'il devient non plus. C'est la lignée de Saül qui va s'éteindre à Gibéa. Alors Gibéa, je ne vais pas aller trop trop loin parce que ces cas-là, on peut parler 3 heures de tout ce qu'il y a dans ce texte, mais Gibéa, c'est un petit village dont est issu Saül. Mais un petit village qui est quand même assez maudit, où il s'est passé des choses assez épouvantables. Eh bien, c'est là, à Gibéa, que va se terminer l'histoire de Saül, là où elle avait commencé, en quelque sorte. Et je dois dire que l'on peut comprendre aussi qu'un cycle de violence s'achève là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas, quelque chose s'achève là. Et quelque chose va naître aussi. Quelque chose va naître parce que, vous l'avez entendu, au début, on nous dit que cela fait 3 ans qu'il y a la famine. Lorsqu'il y a la famine, il y a la sécheresse. Et là, à la fin de la veille de Ritzpa, eh bien, la pluie revient. En quelque sorte, s'achève un cycle de violence et commence quelque chose qui sort d'avenir, qui nous ouvre vers la vie, vers la possibilité de retrouver, eh bien, à manger et à boire, ce qui est la condition nécessaire pour la vie. Alors, oui, un cycle s'achève et l'avenir devient plus lumineux. Mais on va essayer de creuser un peu ce qui se passe, parce que c'est vrai que j'ai employé le mot de sacrifice. Et il y a bien, derrière ce texte, tout un contexte sacrificiel. Vous savez, peut-être pas à l'époque de David, plutôt avant, mais enfin bon, C'est assez discuté par les spécialistes. En tout cas, il y a bien des sociétés où on fait des sacrifices humains pour faire revenir la pluie, pour que les dieux ne soient plus fâchés. Il y a dans l'esprit de ces humains à cette époque, eh bien, le fait qu'il faut en quelque sorte payer un tribut à Dieu et payer un tribut très fort à Dieu pour qu'il puisse être content, être heureux et ramener la pluie. Alors oui, les spécialistes sont assez d'accord qu'il y a en arrière-fond de ce texte cette réflexion. Ces sept garçons vont-ils permettre que le pays redevienne dans l'opulence ? Bon, j'aime pas trop cette lecture, puis enfin finalement, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui de savoir qu'il y a ça derrière ? Alors je pourrais la gommer d'un coup de main ou en disant finalement, c'est pas très intéressant. Pourtant ça m'interpelle un peu, mais en le travaillant peut-être à l'envers. Parce que de quoi s'agit-il là ? Pour l'entendre aujourd'hui, il s'agit d'une sorte de dérèglement climatique. Et oui, ça existait déjà à l'époque. Donc, mais bon. Et qu'en fait ? On veut sacrifier des jeunes hommes pour ramener la pluie. Un peu comme les danses, quand je disais Lucky Luke, là, bon, enfin bref. Mais comme les danses qui permettent de ramener la pluie. Mais là, le sacrifice est énorme. Mais ça peut nous interroger. Qu'est-ce que nous sommes prêts, nous, à sacrifier pour que, justement, des vies humaines ne soient pas sacrifiées sur l'autel du dérèglement climatique ? Ça, on peut prendre les choses à l'inverse, les convertir et dire, qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et certainement, certaines choses vont me coûter pour que, justement, des êtres humains ne soient pas sacrifiés dans une tourmente qui les dépasse et qui, en fait, nous emmènerait, peut-être bien nous, les autres, vers un monde très difficile à habiter. Alors, je ne voudrais pas être très pessimiste. Moi, je suis plutôt... Ce n'est pas que je suis optimiste, j'essaye d'être réaliste. Et puis, je me dis que ce n'est pas refuser le progrès, ce n'est pas tomber, justement, dans une espèce de vision sombre de l'avenir. Mais au contraire, qu'est-ce que je peux faire qui me coûte pour garder l'espérance ? Cette espérance, je l'ai ancrée en moi, mais comment la garder sans être complètement utopiste et dire, bah, finalement, quoi que je fasse, tout se passera bien et Dieu pourvoira. Oui, bon, enfin bon, je pense que nous avons une responsabilité. Et puis, la deuxième chose qui m'interpelle dans cette lecture sacrificielle, c'est qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça dans notre récit. Et on voit bien là que, y compris dans la Bible, il y a une profonde critique de tous ces sacrifices et de toutes ces lectures qui nous proposent une vision de Dieu, une vision de l'homme assez épouvantable. Des dieux qui auraient besoin de sang pour vivre et des humains qui ne se pensent que comme des pantins entre les mains de Dieu. Toute la Bible nous dit le contraire. Toute la Bible, au contraire, nous dit aux yeux de Dieu, l'être humain a de la valeur. Une valeur profonde, une valeur extrême. Malgré tout et contre tout, Dieu nous aime. Et c'est cela le cœur de la Bible, y compris dans l'Ancien Testament. C'est pas parce que c'est un texte de l'Ancien Testament que cela n'est pas là. Et en fait, ce texte critique. Parce que la pluie ne revient pas au moment où ils meurent tous les sept ensemble. Donc, si on était dans un sacrifice qui fonctionne, eh bien, il aurait dû pleuvoir tout de suite. Or là, c'est certainement l'amour de cette femme pour ses enfants, l'amour de cette femme qui ouvre sa maternité à d'autres qu'elle n'a pas eu, l'amour de cette femme qui va au-delà de la mort, qui fait que la pluie revient et que la fertilité est de nouveau à l'œuvre dans ce pays. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle perde ses enfants et que finalement sa fertilité à elle soit anéantie, eh bien il existe une fertilité qui revient à la fois spirituelle mais aussi physique dans ce pays. C'est grâce non pas au sacrifice, mais grâce à l'action de cette femme, à son espérance en la vie malgré tout et contre tout. Alors oui, il y a une critique en effet du sacrifice dans ces textes, tout au long d'ailleurs, il y en a plusieurs des histoires de sacrifice dans l'Ancien Testament, et toujours, la critique est extrême. En effet, Dieu ne nous réclame pas de sang. en réalité. David l'a peut-être compris comme ça, mais Dieu ne nous permet pas de croire cela. Dieu nous aime. Alors, ensuite, mais pour comprendre ça, parce que on est quand même dans une culture qui nous est un peu étrangère, il faut comprendre pourquoi cette femme tient tant à cette veille. Alors, cette veille qui est un peu étrange, parce que même si les corps étant exposés pendant 5 ou 6 mois, il est probable que l'intégrité corporelle n'est pas gardée complètement. Mais cette femme veut quand même que l'intégrité des corps soit gardée. Et puis surtout, il ne faut pas que les os soient attaqués. Alors ça nous paraît étrange, mais dans la culture de l'Ancien Testament, eh bien, les os montrent l'intégrité, en fait, la possibilité d'avoir une vie ensuite. Alors, vous avez un passage dans Ézéchiel, chapitre 37, où on voit, donc un passage très symbolique, où on voit les os se relever et revenir à la vie. Ça symbolise d'ailleurs le retour au pays des exilés. Mais en effet, à travers cette figure du squelette, en quelque sorte, eh bien, la vie est promise de manière symbolique. Ça veut dire que, à travers ça, nous pouvons revenir à la vie. Mais pour cette femme, ce n'était pas que symbolique. Il fallait qu'elle garde l'intégrité du squelette de tous ses enfants, les 7, y compris ceux qu'elle avait adoptés. Et son geste est tellement fort que David va l'entendre, que David, du coup, va ramener les os, il s'agit encore de nouveau d'une histoire d'ossements, de Saül, de Jonathan, et il va réunir ainsi une famille dans la tombe de Kish, c'est-à-dire du père de Saül. Ça peut nous sembler complètement étonnant et finalement pas très important. Mais dans cette culture-là, eh bien, réunir les os ainsi, il y a encore des cultures où ça se fait aujourd'hui. Ici, à Paris, pas trop, mais je pense qu'en Afrique, c'est encore très présent, la réunion des ossements, la réunion des familles au-delà de la mort. Eh bien, David va pouvoir faire ce geste. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires comme ça. On ramène, quand on part d'Égypte, on emporte les ossements de Joseph pour le ramener dans son pays et l'enterrer là, en Israël, dans son pays. Les histoires de tombes sont très importantes. Abraham a acheté une tombe pour pouvoir ensevelir sa femme. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on va se recueillir sur la tombe d'Abraham, de Sarah et des descendants. Donc, finalement, nous avons voulu gommer un peu ça en entendant juste laisser les morts enterrer leurs morts, mais il y a aussi peut-être un temps pour respecter nos morts. Et cette femme, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Et on retrouve un écho d'ailleurs de cela dans Jean. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, chapitre 19, lorsqu'on nous dit que les os de Jésus ne sont pas brisés. Il est déjà mort. Alors, les deux autres, on va leur briser les os, parce que bon, le lendemain c'est sabbat, faut qu'ils se dépêchent de mourir. C'est très long de mourir sur la croix. Alors donc, comme ils étouffent, enfin c'est assez horrible, mais comme ils étouffent parce qu'ils s'affaissent peu à peu, eh bien pour accélérer ça, on brise les os des jambes, comme ça ils tombent plus vite. Mais Jésus est déjà mort, donc son squelette sera gardé dans son intégrité. Et cela, en quelque sorte, ça rejoint tout à fait les psaumes. Les psaumes qui sont très présents, en réalité, dans l'arrière-fond de notre histoire. Le psaume 34 qui nous dit « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Alors, il y a cette promesse que Dieu, eh bien, nous protège, en tout cas, nous empêche de sombrer dans le malheur et faire que, même si nous avons des malheurs dans nos existences, eh bien, Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu veille. C'est ce que nous dit le psaume 118. Dieu veille comme Ritzpa a veillé. Jamais Dieu ne sommeille, nous est-il dit. Et elle n'a pas sommeillé. bon, ça paraît étonnant, mais bon, c'est comme ça. Elle n'a pas sommeillé, eh bien, elle a gardé l'intégrité des corps afin que l'on puisse rassembler, c'était peut-être pas son projet, mais en tout cas, elle avait cette espérance que quelque chose arriverait grâce à elle. Et par ce geste, elle rompt en quelque sorte le cycle de la violence. En effet, tous ils vont être réunis dans cette tombe, la tombe du père de Saül, Kish. C'est assez intéressant ça aussi parce qu'ils sont réunis après la mort. Mais de son vivant, Saül a quitté son père, il n'est jamais allé retourner le voir. Et puis finalement, ses fils, à part Jonathan, il ne s'en est pas trop occupé. Alors, moi je m'interroge. Est-ce qu'on n'est pas quand même appelé à nous réunir de notre vivant ? Peut-être que c'est important de se réunir après la mort. Mais ne nous est-elle pas dit en creux là, réunissons-nous de notre vivant. Soyons capables de pardonner et de faire que, eh bien oui, que ce soit en famille ou en société, nous pouvons vivre ensemble sans attendre d'être réunis au-delà, là-haut, dans le ciel. Finalement, réunissons-nous, soyons capables de nous réunir de notre vivant. Mais Rizpa, je vous l'ai dit, rompt le cycle de la violence. Et là, dans cette tombe, un cycle s'achève. Le cycle de Saül. Mais Saül, c'était le premier roi, le premier oint par Dieu. Et le oint, c'est le Messie. Et en réalité, il s'inscrit donc dans cette lignée de Messie. Et cette première lignée n'a peut-être pas fonctionné. Mais il va y en avoir une autre. Un autre Messie advient, David, évidemment. Et puis, bien sûr, pour nous, les chrétiens, nous entendons le Christ. Ainsi, par la manière dont elle rompt la violence, dont elle refuse la vengeance, parce que finalement, elle aussi, elle aurait pu prendre les armes et aller voir les Gabaonites et demander de nouveau aller 7 Gabaonites aussi en compensation, je ne sais pas. Mais en tout cas, par son attitude, elle rompt la violence, cette violence dans ce cercle dans lequel elle était enfermée. Et par le respect qu'elle a et la manière dont elle est capable d'élargir sa maternité, eh bien oui, c'est elle qui fait que la fertilité revient dans le pays. Et donc, le nouveau Messie va pouvoir advenir, puisqu'ils sont réunis dans ce cycle de Saül, dans cette tombe-là, près de Gibéa. Et il y a donc, comme je vous le disais, des échos dans l'évangile de Jean, particulièrement au chapitre 19, et puis aussi, je vais y arriver, au chapitre 20. Au chapitre 19, il y a des échos. Alors, les jeux d'échos, parfois, sont étonnants. Ils ne sont pas très signifiants, mais ils peuvent nous interpeller. Alors, Rizpa, vous ne le savez probablement pas, mais en hébreu, ça signifie pavé, pavement. Et le pavement, vous l'avez peut-être entendu, mais en tout cas, c'est le lieu du tribunal où se déroule le procès de Jésus, nous est-il dit. Gabata, ce qui signifie pavé, pavement. Et puis Gabata, en réalité, ça fait écho aussi à Gibéa, ce village maudit où ce cycle de la violence se referme. Eh bien, il y a de cela aussi. Et puis, je ne voudrais jamais donner une explication sacrificielle de la mort de Jésus. Mais quelle est cette violence qui réclame la mort de celui qui est juste, justement ? Parce que, aussi, on ne sait rien de ces 7 qui sont morts. On sait que son père avait commis des fautes énormes, ou leur père, ou grand-père, Saül. Mais en était-il responsable ? N'étaient-ils pas, eux aussi, innocents ? Et, en quelque sorte, on les a laissés mourir malgré tout et contre tout. Et en effet, Jésus, le Christ, lui, est innocent. Il va mourir. Oh, il ne se sacrifie pas. Il refuse de renoncer à ce qui est son message d'amour. Et vous avez vu, l'amour, parfois, ça peut être violent, puisque ça l'a conduit directement à la mort. Il refuse de renoncer à la mission pour laquelle il est venu. Sa mission, c'est de nous dire de nous aimer, d'être capable de garder la foi, l'espérance, l'amour. Sa mission, elle est là et jamais elle n'y renoncera. Et pourtant, les clameurs vont contre lui et on réclame sa mort. Alors, la simple jeu d'écho entre Gabata, Rizpa et tout ça, ça suffit quand même pas pour dire qu'il y a un peu de notre récit dans l'évangile, dans ce chapitre 19 de l'évangile de Jean. Mais on peut aller plus loin avec cette histoire des os non brisés, comme je vous l'ai dit, ces os de Jésus qui ne seront pas brisés. Et puis, on peut aller plus loin, parce que Ritzpa, c'est cette femme qui ouvre, qui va élargir sa maternité à d'autres. Et que demande le Christ en croix lorsqu'il dit « Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Voilà, Jésus demande à sa mère d'élargir sa maternité, de faire que la fécondité, la fertilité aille bien au-delà de la lignée physique, mais qu'elle devienne à la fois physique et symbolique, la fécondité, la fertilité. Elle demande en quelque sorte à la mère et aux disciples bien-aimés, eh bien, que le message qu'il est venu apporter ne meure pas avec lui, que le message reste profondément vivant. Et c'est ce qu'ils vont faire, parce qu'on est là ici, aujourd'hui, réunis. Ce message d'amour, de justice, de paix, de joie, malgré tout et contre tout, que le deuil n'est jamais la fin, eh bien, ils sont appelés à maintenant à, en quelque sorte, l'endosser, en prendre une certaine maternité et le faire rayonner dans le monde entier. Et puis, enfin, le corps de Jésus, vous l'avez entendu, n'est pas laissé à l'abandon. Et heureusement, parce que c'est bien cela qui permet de dire la résurrection. S'il n'y avait pas eu des hommes capables de récupérer son corps, de le mettre dans un tombeau, eh bien, que se serait-il passé au matin de Pâques ? Et je terminerai là-dessus. Sur ce matin de Pâques, vous savez, dans Jean 20, lorsque Marie-Madeleine vient au tombeau et qu'elle voit la pierre rouler, le tombeau vide, ce tombeau vide qui nous dit la résurrection, qui nous dit justement que la mort n'est jamais la fin, que, en effet, par-delà tout, nous sommes appelés à vivre, que ce soit à revivre après nos deuils, à revivre après, eh bien, même le mal que nous avons commis, le mal que nous avons subi. Nous sommes appelés à revivre malgré tout et contre tout. Et on voit bien là la rupture. Et en effet, on peut entendre aussi, quelque part, se laisser les morts, enterrer les morts. Lorsque Marie arrive, elle cherche quoi ? Elle cherche le corps. Elle est dans le deuil, parce que elle est encore plus dans le deuil, parce qu'elle ne trouve pas ce corps qui, en fait, lui manque pour faire son deuil. Elle va découvrir qu'il y a bien plus important que cela, qu'il y a la vie, que nous sommes appelés à tourner le dos au lieu de mort, au tombeau, et que nous sommes appelés à nous tourner vers la vie. Et déjà là, elle ressuscite en quelque sorte, elle est réveillée, éveillée, elle est envoyée avec cette mission de proclamer la bonne nouvelle que la mort n'a jamais la fin. Alors certes, cette histoire de Ritzpa peut sembler assez épouvantable, mais vous voyez qu'il y a des choses essentiel, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan existentiel, que nous pouvons entendre à partir de petits récits, de cette petite Ritzpa qui n'a même pas de voix dans la Bible. J'ai essayé de lui donner de la voix, en tout cas, de lui donner de l'épaisseur aujourd'hui. Mais ça m'interpelle aussi parce que dans notre monde, ces sans voix existent aussi. Alors, est-ce que nous serons capables, et c'est certainement l'appel du message de l'Évangile, du message du Christ, de rendre vivant son message en entendant l'appel des plus petits, des sans-voix, soit qu'ils soient dans le deuil, dans le malheur, que ce soit de manière sociale, psychologique, intellectuelle, tout cela, eh bien, nous pouvons l'entendre, être capables d'être à côté de nos frères et de nos sœurs et de faire qu'ils puissent retrouver pleinement leur place dans leur existence. Amen.